chasseur me tuera. Lapin, en tricard, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. La rencontre avec mon invité s'est faite il y a quelques mois lors du premier événement de DAM, le nouveau réseau qui rassemble les femmes entrepreneurs. À cet événement en plein cœur de Paris, il y avait deux intervenantes qui allaient parler de leurs expériences et nous motiver grâce à des mini-sessions de coaching et de méditation. La première intervenante, Frédérique, une belle femme toute fine, au sourire jusqu'aux oreilles et habillée en tutu, a pris place au centre de la pièce. Je découvrais alors que cette tenue n'était pas choisie au hasard, puisque Frédérique est la créatrice de la maison FMK, qui propose des tutus aux matières nobles en provenance directe des plus grandes maisons de couture. Frédérique a commencé à nous raconter son parcours, ses succès, sa vie à mille à l'heure entre réussite et maternité. Puis, toujours avec beaucoup d'humour, elle en est venue à l'épreuve glaçante qu'elle a dû traverser. Une nouvelle terrible qui l'a menée à ralentir et à voir la vie du côté slow. Bonne écoute ! Bonjour Frédérique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Tu as créé la maison FMK, qui est un concept éco-friendly, qui a vu le jour en 2011. Comment t'es venue cette idée ?
Quand j'ai fait des études de stylisme, parce que j'ai un parcours un peu particulier, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait une école de stylisme. Je me disais, en sortant d'école, je voulais absolument créer ma marque. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, ce qui est super curieux, parce que quand on sort, en général, on souffre du symbole de l'imposteur, où on a envie de faire plein de trucs. Et moi, je voulais faire quelque chose d'éthique et je ne trouvais pas quelle marque qui pouvait me proposer cette... qui pouvait me satisfaire dans cette envie-là, tout simplement. Donc je me suis dit, ben, je vais la créer. Et ça avait commencé par du vintage, du recyclage, des choses comme ça. Et puis un matin, un peu plus tard, en 2015, je me suis dit, des tutus.
Et donc l'idée, c'est de récupérer des tissus, c'est bien ça ?
De récupérer du tulle, mais aussi la doublure, donc de la soie, des grandes maisons de couture. Et donc ça a été tout un cursus pour qu'ils acceptent, pour que ce soit, que je rentre dans une chaîne... et finalement que je crée un circuit éthique dans tout ça. Et aussi, c'était rigolo de pouvoir aussi démocratiser un produit haute couture et de pouvoir vendre des tutus à 100 € ou moins ou plus, mais qui tombent toujours dans des conditions... qui tombent toujours dans quelque chose d'assez accessible, en fait. Mmh. Donc, je trouvais ça drôle de ramener quelque chose à... de ramener de la haute couture dans un dressing au quotidien. Et puis surtout, hyper fun de créer un produit qui visuellement ne paraît pas éthique, parce que c'est pas très éthique le tulle à la base, et de lui conférer justement par l'upcycling cette dimension-là tout à fait éthique, quoi.
Et alors, ton entreprise est lancée, tu rencontres beaucoup de succès auprès de tes clientes et tu as le soutien des plus grandes maisons de couture. Et à ce moment-là, tu te lances aussi dans un nouveau projet qui est la maternité. Tu décides de faire un enfant.
On ne choisit pas, je pense. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas ça. C'était une réflexion. J'étais totalement en symbiose avec mon mari, son papa à ce moment-là. On s'est dit, c'est maintenant. On voulait faire ce bébé et on le désirait plus que tout. Et voilà, ça c'est pas... Ça paraît totalement naturel. Elle ou il, parce qu'on ne savait pas encore, avait sa place à ce moment-là de notre vie, quoi.
Et alors, comment on gère la grossesse quand on est entrepreneur à succès ?
Ben, on ne gère pas. Non, moi, j'ai eu, malheureusement, je fais partie du cas des personnes qui étaient malades dès le départ.
Ah.
Donc, je les gérais comme une baleine échouée sur son canapé. Voilà. C'était plutôt ça, c'était méridienne salon, méridienne chambre, etc. Mais comme je suis une fana du digital, on va dire que c'est presque comme ça que le digital est vraiment venu s'installer dans ma vie professionnelle. Parce que du coup, il fallait trouver des solutions pour continuer de faire vivre cette entreprise, continuer de faire vivre tous mes projets et en même temps faire vivre aussi ce gros bébé dans le ventre. Voilà, ça s'annonçait comme ça en tout cas.
Et alors, au bout de 9 mois, ta fille pointe le bout de son nez. Est-ce que c'était la même chose que pendant ta grossesse ? Est-ce que tu as dû gérer ton entreprise à distance pendant tes premiers jours de maternité ?
Il y avait un peu des deux. Elle est née en juin 2013 et c'était une petite fille incroyable, quoi. Donc tout de suite, j'ai vu qu'elle était toute calme, qu'elle était curieuse aussi, mais pas agitée. Alors j'ai opté pour un porte-bébé, mais c'était magique. Je l'emmenais partout. Et c'est vrai que les gens se faisaient la réflexion, même autour de moi, j'ai eu beaucoup de surprises et c'était d'agréables surprises parce que plein de gens m'ont dit « Mais c'est incroyable ce que tu arrives à faire avec ta fille, quoi. » Et je dis « Mais je pense que les enfants, ils font comme... » Ça lui paraissait normal d'aller partout avec maman et donc du coup, elle était hyper sociable. Tout de suite, très petite, mais rock'n'roll, on va dire.
Donc ta fille grandit, elle a 2 ans et en parallèle tu continues à gérer ton entreprise d'une main de maître. Et à ce moment-là, tu apprends une terrible nouvelle.
C'est ça. Donc début 2016, j'apprends que j'ai un cancer du sein en phase terminale. Et là, il y a tout qui bascule, quoi, parce que je suis en pleine effervescence de tous mes projets. Je travaille pour Kenzo, je travaille pour ma marque. J'ai plein de projets en cours, pareil pour mon conjoint, mon mari, ça a avancé très bien dans ses projets également. Enfin, tout se passe super bien, j'ai mon énergie habituelle, etc. Et puis, il y a cette boule que j'arrive pas à expliquer dans le sein gauche et je minimise. Et puis, poussée par mon mari, je vais voir ce que c'est. Donc, ces débuts, c'était vraiment... c'était même pas de la prévention, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai. Voilà. Et en plus, je partais vraiment pour répondre à mon mari en disant « Bon, ok, je vais y aller. » Et puis, il s'avère que suite à la longue attente des résultats, on découvre que c'est un cancer hyper agressif. Parce que plus on est jeune, plus le cancer est agressif. Et puis voilà, le temps d'arriver devant les médecins pour qu'ils m'annoncent... cette nouvelle terrible, il était déjà un stade très avancé. Donc là, je suis devant un choix très cornélien. Finalement, est-ce que je fais ce traitement-là ou est-ce que... Enfin voilà, la décision est...
Parce que là, les médecins, concrètement, ils te disent que...
Les médecins, concrètement, ils me disent qu'il n'y a plus rien à faire.
D'accord.
Voilà. Qu'il me reste 3 semaines à vivre. Et que donc, il faut prendre une décision, soit partir dans un protocole, comme ils appellent, donc c'est un très gros traitement, où je vais avoir de la chimio, de la radiothérapie, une ablation, etc. Mais vraiment dans l'optique de longévité, donc pas de guérison, où je fais mes bagages, je file à Bora Bora, danser toute la nuit pendant 3 semaines. Voilà. Donc en gros, j'avais ce schéma-là. Et puis moi, il y avait ma petite princesse. Je n'ai pas du tout hésité. Je ne sais pas où je vais aller sur le moment chercher cette puissance-là. Et j'ai dit, je fais le traitement. Et ils n'y croyaient pas parce que je ne suis pas très costaud. Donc ils se disaient, elle ne tiendra pas ce traitement-là, quoi. Et puis je l'ai fait et miracle. Et miracle, je suis à côté de toi en train de l'expliquer. Voilà.
Et donc, quand on t'annonce cette nouvelle, on te donne le diagnostic, tu as hésité justement entre ces 3 semaines, enfin à te dire est-ce que je passe 3 dernières semaines hyper quali auprès de ma fille ou est-ce que tu te dis hors de question, je serai là pour sa remise des diplômes à ses 18 ans.
C'est trop bizarre parce que...
Est-ce que déjà tu penses à ta fille
Oui, je pense à ma fille. Mais ce qui est curieux, c'est que sur le moment, je me dis, je prenais une décision plus... je pensais à l'impact qu'aurait cette maladie sur elle. C'est-à-dire comment elle allait voir ça, comment elle allait voir sa mère, parce que c'est un peu l'image que tu gardes, que tu partes ou pas... Ça va être on va dire, le squelette de sa féminité, de sa confiance en elle, etc. Et je voulais qu'on lui dise, dans tous les cas, ta mère, c'était une battante. Elle a fait ça. Et qu'elle dise, ma mère, elle était malade, mais en levant le torse, très fière, en disant, mais peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle est guérie, mais c'est une battante, quoi. J'ai envie d'être une femme comme ça. Sur le moment, c'était plus ça. C'était... c'est curieux d'ailleurs, c'était une histoire de valeur. J'avais envie qu'elle soit une super nana forte et je me suis dit, Je suis devant des gens qui ont l'air de savoir ce dont ils parlent. Au pire, ce qu'ils disent se réalise. Au mieux, à travers moi, ma fille se construit, quoi. C'est le premier truc qui m'est venu.
Et alors, combien de temps a duré ce protocole ?
Eux, pour pouvoir me rebooster un peu, comme on disait en guillemets, pour gagner un peu de vie, ils avaient pensé à faire 8 chimios, plusieurs semaines de radiothérapie, sachant que c'est tous les jours, et entre les deux, une ablation, etc. Et moi, j'ai fait 3 chimios. Et au bout de la 3e chimio, c'est là que j'ai fait un IRM et un scanner, tout le patac, la mammographie et tout, et ils se sont rendus compte que la tumeur, le cancer avait disparu. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont collé l'étiquette de petit miracle d'Institut Curie, parce qu'ils m'ont dit c'est impossible à ce stade-là, ça n'a jamais été vu à ce stade-là, un cancer qui disparaît, qui peut régresser, mais alors qu'il disparaît, voilà. Donc du coup, je n'ai pas fait 8 chimios, j'ai fait que 3 chimios très fortes avec une dose de cheval, clairement. Et suite à ça, malgré qu'on n'ait plus vu le cancer dans le corps, comme c'était inexplicable et que j'étais de toute façon complètement affaiblie par la chimio hyper forte, j'ai fait l'ablation et j'ai fait la radiothérapie et tout le reste du protocole, on va dire.
Et ça a duré combien de temps en tout ?
2 ans.
Et alors pendant ces 2 ans, comment se passe ta relation avec ta fille ? Comment vous gérez ? Est-ce qu'elle peut venir te voir ?
Alors, moi j'avais opté de rentrer à la maison après tous mes traitements, donc ça c'est à double tranchant. Apparemment, à l'époque, dans le passé, les gens étaient hospitalisés tout le long. Aujourd'hui, les gens ont le choix. Donc moi, je rentrais.
À quelle fréquence ?
Je rentrais systématiquement après mes traitements. Je rentrais. J'ai été gardée des fois quand vraiment j'étais dans un état épouvantable. De la chimio, dans laquelle je garde des séquelles jusqu'à aujourd'hui encore. Mais ma relation avec ma fille, c'était magique parce que... malheureusement, j'avais l'impression d'avoir échangé les rôles. Elle était toute petite, elle était empathique, elle venait comme ça, se glisser dans mes draps sans poser de questions, faisait attention de ne pas me bousculer parce qu'elle savait que j'avais mal au bras et au sein, enfin, à la partie des seins. Mm-hmm. Et elle était hyper délicate et attentionnée, mais sans poser de questions, sans me mettre en conflit avec... elle était incroyable. Elle me faisait penser à moi, petite... À avoir ce respect de la douleur et ce respect de mon envie de communiquer avec elle là-dessus ou pas. Et du coup, j'avais opté pour une communication hyper transparente avec elle. Je lui disais, maman, elle a vraiment mal là, c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'asseoir, c'est pour ça qu'elle ne peut pas manger avec toi, je ne peux pas supporter les odeurs, donc maman, elle reste dans la chambre, elle est obligée de fermer la porte. Et voilà, je pense que ça l'a rendue adulte sur ce côté-là, très vite adulte.
Oui, même à 2 ans.
Même à 2 ans.
Mmh. Mmh. Et donc c'est ton mari
qui a porté tout ça, vraiment.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça bien parce qu'avant ça, elle avait une relation très fusionnée avec moi et j'avais l'impression qu'il ne trouvait pas sa place entre nous. Et à ce moment-là, ils ont créé leur relation. Et ça a été quelque chose de très puissant pour elle aussi parce que... elle a senti son autorité aussi, et de l'amour et de l'autorité parentale, et ce cadre que je ne pouvais pas donner à ce moment-là. Donc, ça, c'est sûr que ça a été
bénéfique. Et donc, toi qui vivais à 1000 à l'heure, là, tu te retrouves alité et en repos forcé. Comment tu as géré le fait de devoir ralentir ?
C'était horrible. Au départ, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, je peux pas être malade et pas pouvoir bouger. Mais c'est une maladie qui est tellement... je sais pas si c'est la maladie ou c'est le traitement, qui est tellement écrasant qu'en fait, t'as pas le choix. Je pouvais juste rien faire, à part subir et être connecté à mon corps, écouter ma douleur et en fait être rien du tout. Parce qu'il faut savoir que quand on a une chimio, on peut pas prendre spécialement de médicaments... voilà, sous certaines réserves, etc. Donc, je me suis retrouvée bloquée. Bloquée à absolument rien pouvoir faire. Et puis, au début, je me disais, bon, c'est pas grave, il y a Facebook, il y a Internet, il y a les mails. Puis, on se rend compte que, bah, on est complètement vaseux devant un écran. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis vaseux devant un écran télé, un écran d'ordi, un écran de smartphone. Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est là que le processus de slow est rentré, quoi. J'ai commencé à me dire, tu vas t'écouter, je sais pas, tu vas écrire, tu vas dessiner, t'as pas fait de dessin depuis je sais pas combien de temps. Et là, du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir. À... Ça, c'était nouveau. On fait ça souvent aux autres, quand on en prend le temps, aux amis, aux proches. Mais on n'a jamais cette, cette envie-là envers soi-même, quoi. Puis là, j'étais obligée de le faire. Au début, c'était ça. C'était, si bon, tant qu'à faire, faisons-le. C'était ça. Ça a démarré comme ça, on va dire.
Et donc, tu as adopté, là, le concept de la slow life.
Oui.
Tu penses que c'est quelque chose qui t'a sauvé dans la maladie ?
Ah, mais complètement. Je pense que je dois tout à ça. Et c'est pour ça que quand j'en parle pas que de la méditation, donc des choses que j'ai mises en place pour gérer ma douleur, pour gérer émotionnellement le fait aussi que j'ai été malade et que j'ai pas pleuré une seule fois et que j'étais positive, que quand j'ai perdu tous mes cheveux, j'en rigolais. Quand j'avais pas mes seins, j'en rigolais. Quand j'ai perdu 15 kilos, j'en rigolais. Et... cette façon de tourner en dérision qui n'était pas du déni, parce qu'on en parlait clairement, tout ça, ça a été par cette slow life. Le fait de me reconnecter à moi-même, d'écouter mon corps, de chaque fois me dire « Ah ben là, non, je pense que tu ne vas pas manger cet aliment-là parce que c'est tout bête, je sens que tu vas vomir. » Et c'est des petites choses, mais quand tu vomis, du coup, tu es dans un état où tu dois retourner à l'hôpital et être hospitalisé, enfin plein de choses, voilà. C'est le moment de l'amour. Et donc, c'est, toutes ces choses-là de reconnexion à moi et aussi, donc, du coup, aux autres. Je regardais mon mari courir le matin, aller au travail. Je regardais ma mère qui était venue donner un petit coup de main, déposer aussi ma fille chez la nounou. Toutes ces choses. Et je regardais les mouvements des gens qui allaient, qui venaient. Et ce moment-là où j'ai appuyé sur pause... il était hyper précieux. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis écoutée et que du coup, j'ai emmené mon corps où j'avais envie de l'emmener.
À la guérison.
À la guérison.
Et alors, comment on gère le concept de la slow life avec une enfant, sachant qu'un enfant, c'est tout le contraire de slow ?
Comment on fait ça ? Ben, moi, ça s'est fait spontanément parce que du coup, j'ai eu un rythme de vie, on va dire, que Casey, ma fille, quand elle a commencé à vraiment réaliser ce qui se passait, donc 3-4 ans, c'était une maman qui médite, qui la fait méditer avant de dormir, qui lui fait des postures de yoga pour rigoler dans le salon, qui adopte une éducation positive en discutant énormément avec elle, en lui donnant du cadre, mais en lui expliquant qu'elle a le droit aussi de penser, de réfléchir et de s'exprimer. C'est en allant pas par pas. Je pense que c'est pas un matin comme ça en lui mettant des haricots dans l'assiette, en lui disant... aujourd'hui tu dois méditer et rien d'autre ou... je pense que c'est je pense que les enfants c'est ils copient, donc je pense que s'ils voient maman faire quelque chose et que maman ça fait sourire et que maman elle a l'air tellement bien, c'est déjà un premier pas pour l'emmener à copier, voilà. Et je pense que déjà comme pour tout dans l'éducation, si on peut faire entrer déjà dans leur vie des petites choses concernant comme la méditation, le yoga, ou des petits gestes, ou quand t'es contrarié, fais ci ou fais ça. Juste des petits tips comme ça dans leur vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà, le début de la slow life pour eux, quoi. Voilà. Parce que je me prends des fois ma fille qui me fait des retours quand je suis pas slow. Tu prends des petites leçons de vie. Ça pique, hein. Non, maman, tu penses que c'était bien d'avoir crié comme ça sur moi, là, maintenant ? Avec un air... totalement accusateur, ouais. Donc là, tu te dis, ça fonctionne, mais bon, tu reprends ça dans la face quand même.
Et alors, quelle valeur tu aimerais transmettre à ta fille plus tard, pour qu'elle grandisse sereinement ?
Quelle valeur ? Bah déjà, la force. Je lui apprends, pas que je suis en train de fabriquer une petite féministe, mais on n'est pas très loin. J'arrête pas de lui apprendre qu'elle est capable de faire plein de choses, et qu'elle n'est pas limitée à une seule chose. Donc déjà, je pense que je suis en train de fabriquer une petite slasheuse sans m'en rendre compte. Et j'apprends aussi qu'elle a le droit de prendre des décisions, de faire les choses comme elle l'entend, si toujours c'est en accord avec elle-même et que ça ne fait pas du mal aux autres. C'est des petites choses comme ça, mais fondamentales. Quand tu vois dans la rue, je pense qu'il y a plein de gens qui ont loupé ce message. Surtout une femme forte. Et lui expliquer qu'il y a différents types d'intelligence aussi. Je trouve ça intéressant. Lui expliquer que c'est très intéressant de se cultiver, mais il y a aussi une intelligence créative et puis émotionnelle aussi vis-à-vis de soi-même et des autres. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que je vais avec elle Je pense que pour femme forte, j'ai appuyé trop fort sur le bouton. Elle est très forte. Elle se croit même trop forte. Mais je trouvais ça important. Quand je vois comment est en train de se dessiner la société, qu'elle sache que... donc, c'est pas forcément vis-à-vis des hommes, ça peut vis-à-vis des autres femmes, vis-à-vis de tout ce qu'ils ont, parce que ça a l'air d'être une future société où ils ont accès à tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Donc, ouais, j'ai envie qu'elle ait un peu cette façon de raisonner là, et après elle verra.
Est-ce que le fait d'avoir eu un cancer a changé quelque chose dans ta manière de l'éduquer ?
Oui, complètement. Bah déjà, elle a une relation particulière à la douleur, ma fille. Bah quand elle a mal, je suis même obligée de faire attention et tout, parce que quand elle a mal, elle ne le dit pas. Donc ça, c'est pas voulu, mais je pense qu'elle copie mon schéma de dire « oui, c'est rien ». Donc du coup, je fais un peu attention à ça. Le contre-coup, c'est plutôt ça. Mais sinon, positivement, oui. Ça a changé notre façon de parler, notre franchise. Quand il y a quelque chose à dire, on le dit tout de suite. Elle fait attention à mon émotion, si je suis en colère, si je suis pas contente. Voilà. Elle fait attention à mon visage, mes expressions, et moi aussi pareil. Et y a un langage au-delà des mots qui s'est créé, en fait. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est ce qui nous unit à nos bébés après, et que quelque part, on perd dès qu'on met du... Dès qu'on part sur le langage des mots, c'est trop curieux, quoi. On attend qu'ils disent, sinon ça n'existe pas, voilà. Et en fait, on est resté sur ce truc-là, d'avoir ces deux langages-là.
Et donc, 2 ans plus tard, aujourd'hui, quelle place a le cancer dans ta vie quotidienne, que ce soit familiale ou...
Grosse place, malheureusement. Ouais. Grosse place, parce que familiale... ma fille, comme mon mari, comme mes proches, je suis obligée de ne jamais éteindre mon téléphone, par exemple, ce qui est absolument pas slow. parce que s'il m'envoie plus de 3 SMS que je ne réponds pas, ça veut dire que je suis tombée quelque part dans les pommes, au secours. Donc voilà, donc il m'en crée finalement cette dépendance, enfin j'ai cette espèce de dépendance où je leur dois... voilà, de renvoyer une réponse tout de suite pour pas les inquiéter, etc. Donc ça, je veux dire, c'est la grosse place du cancer déguisé dans notre vie. Mais sinon, par ailleurs, ça a une autre place positive dans l'hygiène. C'est comme si chaque fois que je croisais un proche ou une famille, etc., ça leur envoie la force du fait que j'ai vaincu ça, mais en même temps que... Faut faire aussi attention quand même, Fred, avec 30 ans. Donc voilà, ça leur fait pas peur, puisque je l'expose toujours de façon très ludique, etc. Mais je pense que je rappelle un peu aux gens qui me fréquentent, ou qui me suivent, ou qui travaillent avec moi, etc., qu'il y a d'autres choses. Il faut voir tout ce qu'il y a autour, quoi. Dans ce sens-là, je pense que c'est qui sera toujours dans ma vie, en fait. Ouais.
Et quel regard a ta fille sur la maladie aujourd'hui ?
Une maladie comme les autres, et ça je suis très fière pour elle. C'est une maladie comme les autres. Si ça se passe pas bien, on n'en guérit pas. Si ça se passe bien, qu'on est costaud, comme elle dit, on en guérit. Et franchement, je pense qu'elle le met sur la même ligne que grippe, rhume, poux, et tout ce qui passe par là. Ça, je suis assez contente. Donc ça veut dire que j'ai pas créé une future femme qui va se faire un dépistage chaque semaine. Voilà, ça je voulais absolument pas vivre avec ce truc. Ma mère, elle a eu un cancer, donc éventuellement je pourrais l'avoir. Ça, je voulais vraiment pas qu'elle ait ce truc en elle.
Et est-ce qu'elle s'inquiète pour toi?
Oui, massivement. Je pense que quand elle s'inquiète, il y a carrément un rôle inversé, quoi. C'est quand elle est là, c'est time to time, quoi. Je sors balader mes chiens, tu reviens dans 5 minutes, maman, hein? Quoi, c'est maman qui décide, hein? Voilà, donc sur ça, oui, je pense que quand elle est loin de moi, si c'est elle qui est à la maison, parce que quand elle est ailleurs, il n'y a aucun souci, mais si elle est à la maison, que je la laisse, il y a une petite peur quand même qui s'installe. Elle veut bien visualiser où je vais, pourquoi. Je pense que c'est là que je vois qu'elle est encore inquiète.
Et alors, quel conseil tu pourrais donner à une maman qui apprend aujourd'hui qu'elle est atteinte d'un cancer ?
Déjà, de ne pas lire tout ce qu'il y a sur Internet. C'est un peu bateau au départ, mais... Je t'assure que oui, parce que j'ai rien lu. Et Et j'ai rien trouvé de positif sur le net. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai posté ma première vidéo où j'annonçais à tout le monde que j'avais un cancer sur YouTube, parce qu'en fait, je disais avec beaucoup de positivité que j'étais malade, qu'on venait de l'annoncer, mais que ça allait bien se passer. Et je rigolais en disant, de toute façon, je serai dans mon tutu, même si j'ai plus de seins, plus de cheveux, plus machin. Et parce qu'il n'y a que des choses négatives. Donc déjà, psychologiquement, je pense que ça draine les gens vers quelque chose de très noir déjà, quoi. Être déjà défaitiste et aller voir les effets secondaires des choses. Moi, je les vivais et je les combattais à l'instant présent, quoi. Et donc, je dirais, concentrez-vous sur comment vous vous sentez, ce que le médecin dit, mais aussi ce que votre corps vous dit. Et puis vous verrez. Mais combattez déjà la maladie chaque jour, quoi. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire, chaque jour. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très puissant de le faire comme ça. Et puis surtout, on en guérit. Ça aussi.
Et tu en es la jolie preuve. Donc, sans transition, on va passer aux trois petites questions de la fin. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une maman qui a un sac XXL et qui fait genre, c'est pas lourd. Voilà, c'est ça. Et qui fait comme si tout va bien et qu'elle s'est pas changée 5 fois parce que la petite a cru que son habit était du chocolat. Voilà, c'est être un super-héros qui fait genre.
Ton endroit kids-friendly préféré, si tu en as un?
Kids-friendly, j'ai découvert récemment chez Cosette. C'est dans le 18e, donc pas loin de mon atelier de tutu. Et ouais, et c'est un endroit que j'ai découvert par hasard et je comprends pas comment ça se fait qu'il y a que des meufs avec des bébés. Au début, je croyais que c'était un gang caché, une mafia bébé-maman, enfin je sais pas. Et puis en fait, non, quoi, mais c'est très curieux et c'est un endroit où tu peux bosser au calme, que tu manges hyper bien, vegan, végétarien, un petit peu viande aussi, si on en a envie. Mais en tout cas, c'est fait maison, donc les gens mangent très bien. Et en plus, c'est calme et je trouve ça un espace ouvert à la créativité, j'aime beaucoup.
Et alors, quels sont tes projets en famille et ce rien que pour toi ?
Tes projets rien que pour moi ? Courir, ne pas regarder où ils sont, non je rigole. Non, des projets rien que pour moi, c'est différent hein. Aujourd'hui, mes projets c'est tous les jours, vraiment, c'est quand je me lève le matin que je suis en forme, c'est un super projet quoi, je me dis je peux faire tout ce que j'avais prévu, je suis vraiment en forme, et ouais, c'est vraiment ça les projets, je n'ai plus de projets à long terme, avant j'en avais, maintenant j'en fais plus, c'est vraiment d'être heureuse et d'arriver à être en bonne santé tous les jours. Et bonne santé, je ne suis jamais vraiment, mais je pense que personne ne l'est vraiment. Hein. Mais par contre, de se lever le matin et d'arriver à tenir un planning qui est top pour son enfant, pour soi-même, et puis ce qu'on a accompli en tant qu'entrepreneur, je trouve déjà que c'est pas mal gagné déjà comme projet. Projet 24 heures, déjà pas mal.
Et en famille ?
En famille, c'est j'essaie vraiment d'instaurer des moments de avec bébé, enfin avec bébé, plus du tout bébé, mais avec l'enfant et avec mon chéri, en nature. C'est quelque chose que je fais, que je faisais souvent seule et que mon mari faisait souvent de façon isolée aussi. Et on a décidé d'essayer chaque fois de le faire tous les trois. Et puis, ça fait une cassure et sans téléphone et sans être juste là, profiter, pique-niquer ou juste glander. Voilà, il faut s'autoriser à glander aussi. Et ça, oui, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en place tout le temps. Chaque fois qu'on peut, de se couper. Et, voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut faire sans aller très loin aussi. Donc ça, c'est cool.
Merci Frédéric.
Merci Jay.
À bientôt.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Frédéric, rendez-vous sur son site maisonfmkparis.com. Sur lequel vous trouverez ses superbes tutus ainsi que tous les ateliers Slow Life qu'elle propose. Pour échanger sur le sujet abordé avec Frédéric, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 5 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. Enfin, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. À très vite pour un nouvel épisode!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.